Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, peut-on vraiment parler d'américanisation de la vie politique en France? Nombre des commentaires qui ont suivi la démission du candidat LREM à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, ont insisté sur la levée de barrières symboliques séparant traditionnellement en France vie privée et vie publique des hommes et des femmes politiques. Les termes de puritanisme ou encore d'américanisation ont immédiatement suivi pour qualifier la publication sur le net relayée par les réseaux sociaux d'une vidéo de l'ancien porte-parole du gouvernement. L'américanisation supposée des mœurs et politique est-elle si réelle que cela? C'est la question que nous allons poser à nos quatre invités ce soir. Emmanuel Taïeb sera avec nous au téléphone. Il est professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon. Il est membre du laboratoire Triangle et auteur d'un livre sur la série politique House of Cards. Béatrice Guillemont est avec nous également. Elle est doctorante en droit à l'université de Bordeaux et de Toulouse. Elle travaille sur la moralisation de la vie politique par le droit et elle travaille également à l'Observatoire de l'éthique publique. Gloria Origi est également avec nous. Elle est philosophe, autrice de La Réputation, Qui dit quoi de qui en 2015 au PUF, et également d'un autre livre qui s'intitule Qu'est-ce que la confiance, Chevrin, et d'un livre plus récent, c'était l'année dernière, sur les passions sociales. Et avec nous également pour conclure, James McAuley est correspondant du Washington Post à Paris et il a suivi évidemment l'affaire Griveaux.
Je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris. Et puis, c'est le projet pour Paris, celui que nous avons construit et pour lequel nous sommes beaucoup battus. Ce projet, aujourd'hui, il vivra mieux sans moi. Les Parisiens méritent une campagne digne.
Dignité de la campagne, façon de se protéger, ne pas s'exposer davantage. Voici ce qu'avait dit donc en abandonnant sa course à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux. C'était en fin de semaine dernière. James McAuley, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez commenté pour votre journal, le Washington Post, cette démission, ce départ de Benjamin Griveaux, en expliquant que c'était un épisode, selon vous, en tant qu'Américain, un épisode inusuel, donc qui n'était pas usuel dans un pays qui généralement levait les épaules dès qu'il s'agissait de parler d'affaires extramaritales.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, moi, j'ai du mal à voir l'affaire Griveaux en tant qu'un exemple de l'américanisation, quoi qu'on entende par ce terme. Mais bien sûr, c'est compliqué.
Hein. On va en discuter d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais bien sûr, et tout le monde le sait, chez nous, il y a une longue tradition du puritanisme, surtout avec la vie sexuelle de nos politiciens. Mais on n'a pas vraiment le même respect pour la vie privée en général. Quand on entre la vie politique, chez nous, aux États-Unis, on appartient au public. Mais l'affaire Griveaux, c'est quelque chose de différent, je trouve. Si l'affaire se déroulait chez nous, par exemple, je vous assure que la conversation publique ne traiterait qu'un seul sujet, et ça, c'est l'infidélité. On a vraiment une obsession morale avec la vie sexuelle des hommes et des femmes politiques. Et dans un pays dans lequel la plupart des gens gardent toujours les valeurs conservateurs et chrétiens, notamment, le mariage reste toujours sacré. Et surtout pour la classe politique, car pour beaucoup des Américains, elle doit incarner une vision idéale de la vie et des choses. Même si, bien sûr, c'est pas la réalité, mais c'est l'idéal. C'est ça que je trouve la différence, en fait.
Oui, et puis vous dites aussi dans votre article pour le Washington Post, vous dites que vous êtes surpris, étant donné la façon dont vous connaissez la France, de la démission ou du départ de Benjamin Griveaux, parce que ça vous paraît surprenant, étant donné les discours habituels que nous avions en France sur cette question de la séparation entre vie privée et vie publique.
Oui, c'était un peu bizarre, mais et on ne sait pas pourquoi il a décidé de démissionner. Mais
il l'a expliqué, on l'a entendu.
Mais ouais, voilà. Oui, mais on ne sait pas vraiment les dimensions politiques en entière. Mais pour moi, ce que je trouve la question la plus importante dans toute cette histoire, c'est les origines de cette obsession française, si je peux dire, vous pouvez dire,
vous avez le droit.
Avec l'américanisation en général.
Comme une sorte de menace qui existe
depuis l'époque de Charles de Gaulle, ou peut-être même de Tocqueville, jusqu'à Chirac et la guerre en Irak. Et c'est ça pour moi, c'est la question, les origines de cet phénomène soi-disant américanisation.
Et on va y revenir avec nos autres invités. On a avec nous une juriste, une philosophe et également un spécialiste de sciences politiques, peut-être Béatrice Guillemont. Est-ce que ce terme d'américanisation, qui s'accompagne généralement du terme de puritanisme, vous qui êtes spécialiste de la question de la moralisation de la vie politique par le droit, vous paraît un bon terme, ou est-ce que c'est un terme galvaudé qui n'est pas assez précis pour pouvoir justement qualifier cette affaire Rivaux ou plus généralement d'autres affaires qui sont liées à des questions de mœurs en politique?
Mais en tout cas, en tant que scientifique, on raisonne avec des concepts définis. En l'occurrence, le terme d'américanisation, enfin, c'est pas un terme reconnu scientifiquement, on sait pas ce que ça veut dire. Et de ce fait-là, c'est un terme qui va nécessairement nous mettre mal à l'aise finalement. Depuis 2013, en tout cas, on l'acte officiellement comme ça en France. Il y a à peu près une loi par an qui est adoptée en France pour visant à moraliser la vie politique française, à renouer la confiance entre les représentants et les représentés. Mais la différence de ce qui est en train de se passer, c'est que ces mesures normatives ne concernent que l'action publique. Elles ne concernent pas la vie privée des responsables publics.
Et donc ça, effectivement, c'est une grande différence. Gloria Origi, vous qui avez travaillé sur la question de la réputation, et en particulier, vous aviez dans votre livre, dès 2015, aux presses universitaires de France, vous aviez évoqué la question du net comme étant un lieu où on exposait sa propre réputation, et donc on prenait peut-être plus de risques qu'en étant chez soi sans ouvrir jamais un ordinateur et sans jamais aller sur le web. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question d'américanisation et de séparation entre vie privée et vie publique?
Mais d'abord, l'américanisation, disons, c'est une vieille histoire, enfin, comme justement vous disiez tout à l'heure, enfin, ça, de toute façon, c'est à partir d'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on parle d'américanisation, et ça va des machines à laver ou des supermarchés.
Ah bah c'est le plan Marshall avec l'arrivée des tracteurs.
Voilà,
des
supermarchés jusqu'à la théorie du genre ou au communautarisme ou au néolibéralisme. Enfin, l'Amérique était l'empire irrésistible, enfin, comme le définissait une historienne américaine qui s'appelle Victoria de Grazia, Irresistible Empire. Et donc, disons, moi je pense que dans ce cas précis, enfin, c'est bien au-delà de l'américanisation. On voit une internetisation de la vie politique partout dans le monde qui nous fait parler aujourd'hui de post-politique, c'est-à-dire d'un passage d'un espace public dominé par l'argumentation, par la négociation, à un espace public digital dominé par les émotions et par la propagande. Et moi, je pense que ça va, comme on a vu dans des scandales dans la politique américaine récente ou dans la politique du Royaume-Uni, enfin, et toutes les opérations qu'on peut faire aujourd'hui avec les opinions des gens. Ça veut dire que c'est un phénomène de grand changement qui vient bien au-delà de l'américanisation et qui touche à la, disons, à l'usage encore très maladroit qu'on fait des nouvelles technologies, disons. Et c'est sûr que, disons, un des phénomènes les plus frappants, c'est que les protagonistes de notre histoire, de nos récits personnels, ce n'est plus notre moi intime, mais c'est notre ego social. Ça veut dire la myriade des représentations de nous-mêmes qui circulent autour de nous
et que nous offrons.
Et nous n'avons pas les contrôles de ce nuage des représentations et basons nos actions encore sur des vieilles oppositions comme privé et public qui n'existent plus. On ne peut plus opposer ce qui est privé et public, moi et les autres. Enfin, c'est les autres qui construisent la plupart de ce que
je suis. Vous voulez dire qu'on a encore
enfin,
des schémas
on a mentaux, des schémas qui sont
dépassés par la technologie.
Ah oui, et qui sont dans la philosophie d'il y a 100 ans. Quoi. Il faudrait changer aussi de philosophie.
Emmanuel Taïeb, d'autant que vous êtes avec nous au téléphone, vous êtes spécialiste de sciences politiques à Sciences Po Lyon, vous êtes membre d'un laboratoire qui s'intitule Triangle et vous êtes auteur d'un livre sur la série politique House of Cards, sur laquelle vous avez écrit un livre aux presses universitaires de France. Et vous expliquez qu'effectivement, il y a une représentation du politique qui est très fictionnée dans House of Cards, qui a été tout à fait vue dans le monde entier comme étant une représentation de la politique, mais que que tout cela, ça n'est qu'une représentation, c'est une fiction, ça n'est pas la réalité de la politique, pas plus que le Baron Noir ne nous décrit véritablement la réalité de la politique en France, Emmanuel Taïeb.
Oui, absolument, mais disons que la fiction a un pouvoir de d'évocation du réel qui est extrêmement puissant, et on peut recevoir aussi la série au premier degré et plonger dedans et au fond reconduire la vision très particulière de cette série-là, de House of Cards, comme étant une série qui met en scène quelqu'un d'absolument pourri au plus haut niveau de l'État, quelqu'un d'absolument meurtrier, quelqu'un qui ne défend plus du tout l'intérêt général, mais défend uniquement son intérêt particulier et ne va faire qu'une série de combats, comme celui dont on est en train de parler. Mais on peut aussi considérer qu'en mettant en scène ces éléments-là, la série se veut lanceuse d'alerte. Et au fond, alerte sur le fait que si on abandonne la démocratie, si on ne contrôle pas les hommes politiques, on peut aller vers une dérive absolument meurtrière et vers une politique à la Machiavel au plus haut sommet de l'État. Et donc, de ce point de vue-là, la série est à la fois alertante et inquiétante.
Et peut-être annonciatrice, effectivement. Je vous propose d'écouter un extrait de la série Le Baron Noir, dont la troisième saison vient tout juste de commencer sur Canal+. On y entend la présidente de la République avec son amant qui est chez elle à ce moment-là. Et voici ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux, on va pouvoir peut-être commenter.
Il y a environ 30 000 articles qui sortent chaque mois dans lesquels mon nom est mentionné, sans compter les mentions sur les réseaux sociaux. Si on me prête une relation, ce sera plus 30, mais 60 000, dont 80% évoqueront cette relation. S'aiment-ils vraiment? Comment organisent-ils leur vie? Attendent-ils un heureux événement? Tout le reste, c'est-à-dire l'important, ma politique, sera reléguée dans un petit coin de l'arrière-plan. Et très vite, on se demandera si je suis pas sous influence.
Quoi, sous influence de moi?
Une femme ne pense jamais par elle-même. Je serai immédiatement réassignée à la condition que j'aurais jamais dû quitter. Femme. Et une femme, c'est d'abord la femme de quelqu'un.
Donc, à la tête de l'État, seul un homme aurait le droit d'avoir une histoire d'amour, c'est ça?
Ce sera pas toujours le cas, mais mettons que je suis celle qui s'allonge sur les barbelés pour que les autres puissent passer. Si le souvenir de ma présidence est celui des ragots sur ma vie privée, j'aurais certes été la première présidente, mais on attendra très longtemps la deuxième.
Voilà donc un extrait de cette dernière saison qui vient tout juste de sortir sur Canal+, du Baron Noir. Béatrice Guillemont, cette idée, alors évidemment la présidente est une femme, en l'occurrence qui change peut-être un peu la donne dans cette série de Canal+, mais néanmoins ce qu'elle dit sur on ne parlera plus de ma politique, on ne parlera que de ma vie sentimentale ou de ma vie sexuelle, effectivement c'est un des risques de ce barrage qui, d'après ce que disait à l'instant même Gloria Oricci, a sauté entre vie publique et vie privée.
Oui, effectivement, c'est un glissement en fait qui s'opère entre deux intérêts. L'intérêt pour la chose publique, l'intérêt général, et l'intérêt, enfin en tout cas l'intérêt de l'extérieur pour la vie privée du responsable public. Et oui, enfin en tout cas, là en l'occurrence, c'est une dérive. Mais cette dérive, elle est aussi due au phénomène de pipolisation qui est à l'œuvre et qui est d'ailleurs également du fait des hommes politiques et des femmes politiques eux-mêmes.
Oui, et on peut dire aussi que ce rappel d'autres cas, et en particulier de cas américains, James McAuley, comme celui qu'on entend pour l'instant de Monsieur Weiner, Anthony Weiner, qui avait dû faire amende honorable face à la presse en juin 2011 à New York après la diffusion de vidéos et de photos à caractère sexuel qu'il avait posté par erreur sur compte Twitter. On l'entend qui s'explique, qu'il parle de sa famille, etc. Eh bien, Anthony Weiner, c'est ce qu'on a pris comme exemple en disant, voyez ce qui s'est passé aux États-Unis, ça s'est déjà passé, des photos de sexe qui étaient transmises sur les réseaux sociaux. Et donc Benjamin Griveaux n'est qu'une sorte de pâle copie de ce qui s'était déjà passé outre-Atlantique. Qu'est-ce que vous en pensez, James McAuley?
Oui, c'est intéressant la comparaison, mais en même temps, il y a des différences importantes. Et de revenir à ce que j'ai dit au début, bien sûr, après l'affaire Griveaux, beaucoup en France ont fait la comparaison avec l'affaire Weiner en 2011, je crois.
Oui.
Et qui est pareil au niveau des détails, au moins, c'est sûr. Mais cette affaire Weiner est devenue un scandale chez nous, car pour la plupart des lecteurs américains à l'époque, c'est une histoire dans laquelle un homme a trahi sa femme. C'est toujours une histoire de l'infidélité.
Et dans sa déclaration, il dit « Je regrette profondément la peine que j'ai causée à ma femme et à notre famille, ainsi qu'à mes électeurs et à
mon équipe. » Mais à l'époque, à New York, Huma Abedin, la femme d'Anthony Weiner, Elle était la conseillère la plus proche de Hillary Clinton. Elle était un personnage dans l'histoire très, très importante et même centrale à l'affaire Viner. Et ce n'est pas vraiment la même chose avec l'affaire Griveaux, je trouve. On ne peut pas vraiment dire ça. Car chez nous, l'affaire Viner, c'était vraiment une histoire de trahison, de l'infidélité. C'est pas... I mean, bien sûr, il y a la une de New Yorker à l'époque qui était un peu scandaleuse, mais non.
Qu'est-ce qu'elle disait, cette une du New Yorker?
C'était Viner comme King Kong avec l'immeuble de l'Empire State Building.
Entre les jambes.
Exactement.
Oui, effectivement, c'est tout à fait évident que c'était. Ça, on pouvait comprendre que ça soit scandaleux. Ces questions de scandale sexuel, Gloria Origi, il touche à la réputation, cette réputation que l'homme politique doit se construire patiemment, une réputation de sérieux, une réputation d'être au service de son propre pays. Et puis voilà que ça peut être détruit par un scandale sexuel. En l'occurrence, c'est un scandale qui ne touche qu'effectivement ce qu'on appelait auparavant, puisque vous nous dites que c'est terminé, sa vie privée.
Alors, on dit toujours que ça prend toute une vie de construire une bonne réputation et une seconde pour la détruire. Donc, les réputations sont très fragiles parce que justement, elles ne sont pas faites par nous-mêmes, elles sont faites par les autres. Enfin, c'est les autres qui ont le contrôle de nos réputations. Donc, on développe des stratégies. On appelle aujourd'hui, on parle aussi de gestion de la réputation, de reputation management, comme même les entreprises se sont mises à s'occuper de tout ça, mais on développe des stratégies. Mais des stratégies de navigation dans les opinions des autres. Enfin, c'est ça qu'on fait lorsqu'on se construit une réputation.
Et qu'est-ce que change donc, justement l'arrivée de ces médias électroniques dans cette construction de réputation par rapport à ce que c'était auparavant, avant même la création de ces médias instantanés qui circulent à très grande vitesse autour du monde?
Ça change tout. Vous mentionnez là la vitesse. Alors, la vitesse et le déluge informationnel ensemble changent toute la donne de la communication et de l'information. D'abord, ici, on est en train de discuter comme si c'était un fait d'actualité de quelque chose qui s'est passé en 2018. Mmh. Enfin, donc, là aussi, vous voyez, la temporalité sur laquelle on est habitué à organiser nos vies est complètement bousculée par ces nouvelles technologies. Et puis, quelque chose, lorsque vous recevez à une grande vitesse énormément d'informations et vous n'avez plus le temps de traiter l'information que vous recevez, vous allez retenir les contenus qui sollicitent vos émotions. Ça veut dire le plaisir, la peur, l'indignation, la colère. Et en vous appuyant sur qui dit quoi de qui pour filtrer la cascade d'informations. Enfin, vous ne vérifiez pas vous-même. Enfin, vous vous appuyez sur ce que les autres disent et vous, voilà, très rapidement, saisissez le plaisir ou la gêne qu'une information vous donne. Et donc, disons, les processus même, disons, cognitifs sont changés.
Sont contredits d'une certaine façon. Et on peut dire effectivement, et puis il y a certains qui jouent là-dessus, effectivement, le livre de Giuliano Nampoli sur les ingénieurs du chaos nous explique bien cela, c'est qu'il y a des gens qui construisent le chaos en jouant sur les réputations et des uns et des autres sur le net. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Béatrice Guillemot, en tant que juriste, à ce qui vient d'être dit par vos autres compères autour de cette table?
Ben en fait, moi, le lien que je fais entre le scandale et le problème de confiance, Viner, en fait, vous avez dit à l'instant que parce qu'il avait trompé sa femme, en fait, il avait trompé la confiance que sa femme avait placée en lui. C'est le même mécanisme par rapport au mandat électif. En fait, on cherche au travers d'une actualité, somme toute très banale, à vérifier si le candidat à une élection est susceptible d'accueillir la confiance que les électeurs voudraient lui donner. Et donc, en fait, normalement, dans l'idéal d'un mandat électif, on est censé se baser sur quelques éléments, l'expérience, c'est-à-dire le bilan politique au public d'un candidat et ses idéologies. Et là, en l'occurrence, en fait, on va s'intéresser plus à des éléments de sa vie privée pour pouvoir vérifier si on peut lui faire confiance. Et en fait, de manière sous-jacente, on se rend compte que on parle constamment de crise de confiance, crise du régime représentatif, c'en est un témoignage. Là, en l'occurrence, on se base sur ces éléments-là. Et à côté, on a des chiffres, des chiffres scientifiques, notamment les chiffres du CEVIPOF, du laboratoire de Sciences Po Paris, qui rapporte que 39% des Français sondés se méfient des hommes politiques, de la classe politique, 28% en ont du dégoût. Donc tout ça, tous ces scandales-là alimentent cette crise de la représentation.
Emmanuel Taïeb, vous qui êtes spécialiste de sciences politiques en tant que professeur à Sciences Po Lyon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit par Béatrice Guillemot ?
Il y a un élément peut-être qu'on a évoqué sans y aller complètement, c'est la question des deux corps de l'homme politique et la question des deux corps du roi, le corps privé, c'est-à-dire le corps physique et puis le corps politique. Là, l'attaque contre Griveaux, elle touche à son corps privé et à son corps intime. Et donc pour lui, c'est extrêmement difficile de répondre politiquement, et donc avec des outils ou des ressources politiques, à une attaque qui se fait sur son corps privé ou quelque chose qui instrumentalise son corps privé, parce qu'il a plus les leviers habituels. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au fond, il a été en quelque sorte réduit au silence. Et ça me faisait penser à un passage de Guy Debord dans la Société du spectacle, qui dit le spectacle, alors il parlait du spectacle étatique, c'est le contraire du dialogue. Et là, effectivement, il y a une espèce d'injonction d'un Griveaux mythique qui est obligé de se taire et qui est obligé de sortir complètement de la campagne, parce que ce qui lui a été fait, au fond, c'est la fin du dialogue dans un moment qui doit être un moment de campagne et un moment de dialogue très important, parce que quand ça touche au corps privé, qu'est-ce qu'on peut dire et comment fait-on pour se défendre? Donc il a effectivement préféré se retirer, il n'y avait plus rien à dire.
Et parce que vous pensez, vous, contrairement à Gloria Origi, qu'il y a encore la possibilité d'avoir un corps privé dans la société de spectacularisation permanente qui est construite par le net et par les réseaux sociaux, par exemple?
J'ai tendance à y croire, même si je ne sais plus exactement, parce qu'effectivement, le corps privé est très utilisé. Mais après, peut-être la différence, c'est que les hommes politiques ont utilisé leur corps privé, ils ont essayé de l'instrumentaliser, ils ont essayé de jouer de la pipolisation. Là, c'était pas le cas. C'est-à-dire que là, on est en présence de ce qu'on appelle un outing, c'est-à-dire qu'un tiers va vous exposer ou un tiers va révéler des images que vous n'aviez pas utilisées, que vous ne comptiez pas utiliser, qui n'ont pas de contenu politique, et il va les utiliser pour qu'elles produisent un effet politique.
Gloria Origi,
la différence est là.
Mais d'ailleurs, enfin, moi, je suis un peu choquée du fait qu'on, disons, on se scandalise pour cette espèce de révélation du privé d'un politique, de la vie privée d'un politique, lorsque nos vies privées sont complètement devenues publiques et traçables jusqu'au tout petit mouvement qu'on fait ou au clic qu'on fait sur Internet, nos habitudes de consommation, etc. Donc, en fait, c'est fait devient des faits symboliques, enfin, des peurs, des craintes qu'on a profondément dans nous, enfin. C'est que notre privé n'existe plus, enfin.
Nous sommes dans le temps du débat, il est 18h42 et nous traitons de la question de l'américanisation, tout en disant que ça n'est sûrement pas une américanisation de la vie politique en France. Après l'affaire Griveaux, on y revient après ces deux extraits de la série House of Cards, sur laquelle a travaillé Emmanuel Taïeb et Baron Noir.
Je m'en fiche que ce soit douloureux. Je m'en fiche de la controverse que cela va créer. Vous êtes là pour trouver le moyen de parvenir.
C'est comme ça que vous arrivez à vous supporter, en vous persuadant que l'obscène peut devenir acceptable.
La route du pouvoir est pavée d'hypocrisie. Jamais de regret.
Et les arguments ? Qui s'en charge ?
France Culture.
Les arguments, ça convainc surtout les convaincus.
On vit surtout les émotions. Rire, peur, espoir, indignation.
Et c'est là-dessus que vont réagir nos petits comptes satellites. Des bots.
Des comptes non humains. Des faux comptes, quoi.
Le temps du débat.
La psychologie cognitive montre que les émotions négatives sont beaucoup plus mobilisatrices.
Je voudrais pas parler de vieux jeu, mais vous avez rien de mieux à me proposer.
Emmanuel Laurentin.
Madame la Présidente, on peut aussi faire comme Hillary Clinton. Ma propre sur les réseaux. Battu à l'arrivée.
Voici ce que les conseillers très jeunes d'Amélie Dorandeau, la présidente de France dans la série Baron Noir, conseillent. Effectivement, on pourrait continuer à avoir les mains propres sur les réseaux, mais de toute façon, on perdrait l'élection. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, James McAuley, vous qui êtes correspondant du Washington Post à Paris? Vous nous dites, ça n'est pas une américanisation que nous vivons, c'est une crainte de l'américanisation, c'est une peur française de l'américanisation. Qu'est-ce que vous pensez,
oui,
justement?
C'est très très intéressant cette inquiétude française de l'américanisation. Pour moi, c'est une particularité du discours public ici, car il incarne dans un sens une façon de définir une identité nationale qui est en crise depuis très longtemps. Et c'est ça la question.
Menacé de toutes parts, vous voulez dire. Hier, nous avions une émission sur la radicalisation islamiste. Aujourd'hui, sur l'américanisation. Oui. Non, mais, on serait menacé de partout.
Non, mais pour moi, l'histoire est très importante dans tout ça. Vous avez bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, la perte des colonies, et donc l'influence globale de la France, le déclin de la langue française partout. Et aussi la crise économique mondiale qui menace le système de protection sociale ici en France, bien sûr. Il y a aussi l'évolution démographique de la société et l'arrivée du discours identitaire, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Et regarde aujourd'hui, par exemple, la controverse sur les amalgames et tout ça. Et pour beaucoup en France, j'ai l'impression que l'Amérique... c'est la source de tout cela et l'opposé de ce qui reste de la particularité française dans un sens.
Et donc quand on voit un problème comme celui...
Oui, exactement, c'est la faute de l'Amérique. Histoire,
ouais, c'est la faute de l'Amérique. On va chercher le bouc émissaire.
C'est du discours américain, du monde anglo-saxon.
Et puis, il ne faut peut-être pas oublier, effectivement, qu'il y a une dimension...
Qui entre nous est anglo-saxon, moi.
Ça n'existe qu'ici, l'expression anglo-saxon.
Oui, c'est fascinant, mais ça montre quelque chose.
Et la question, vous oubliez peut-être aussi cette question du retour possible par le puritanisme de la religion dans un pays qui se veut déchristianiser, qui veut effectivement avoir mis par la laïcité à la porte la question religieuse et qui se dit, voilà, la question religieuse re-rentrerait par ce biais-là.
Aujourd'hui, il me semble que la France aime se définir en réaction à cette opposée américaine parce que c'est trop compliqué de définir la France autrement. En gros, je trouve ces débats constants et sans fin sur l'américanisation, soi-disant, de la France d'être une façon de créer une nouvelle identité nationale.
Oui, sur ce point, Béatrice Guillemont, puisqu'on évoque cette question de l'américanisation, vous ne la voyez pas dans le droit, l'américanisation française, en l'occurrence, vous qui êtes juriste.
Effectivement, on la voit pas dans le droit. Moi, je pense que, sans parler de puritanisme, en tout cas, c'est un retour de la morale. Et à la fois, c'est quelque chose de voulu, mais en même temps, on en a peur parce qu'on ne connaît pas les limites, parce que le principe de la morale, ben, justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite, c'est personnel. C'est soumis à plein de facteurs et on joue un peu avec cette nécessité-là, cette nécessité de moraliser la vie politique. C'est quelque chose qui remonte à la Révolution française, en fait. Au moment où on a créé le mandat, on a substitué des privilèges à ce nouveau mandat qui sera à destination de citoyens lambda. Et il fallait lui donner du corps, donc on a imposé des devoirs de dignité. Donc tout ça est en fait finalement très ancien.
Devoirs de dignité aux représentants du peuple, en l'occurrence.
Oui, voilà, qui sont à la charge des représentants du peuple. Et en fait, tout ça, c'est tout constamment sur une ligne de crête. On essaye, disons que c'est un objectif d'arriver par là. Et en même temps, on se rend compte des limites de la morale. Et là, en l'occurrence, c'est un débordement. Donc je le vois plus sous cet angle-là. Et oui, voilà.
Sur ce point, Emmanuel Taïeb.
Moi, je pense qu'il y avait eu, alors pour aller quand même dans le sens du titre de votre émission, il y avait une inquiétude de l'américanisation. En France, on avait été beaucoup frappé par ce qui était arrivé à Gary Hart, c'est un peu ancien, en 1984, oui, je crois, 1984. Dans les années 84, on y avait une photo de lui avec sa maîtresse sur les genoux qui avait chuté et il avait dû renoncer à la course à la primaire. Et c'est vrai qu'en France, on avait regardé ça avec beaucoup de distance en se disant c'est le puritanisme américain, ça ne peut pas arriver en France parce que en France, ce qui était jugé choquant, c'était plutôt les enrichissements personnels, les affaires ensuite qui ont explosé de financement des partis, mais pas ce qui semblait relever de la sexualité ou ce qui semblait relever de la vie privée. Et il y avait une tolérance très forte à l'égard des infidélités des hommes politiques. On a tous les ans, on nous raconte les maîtresses à foison de tel ou tel homme politique. Donc c'est vrai qu'il y avait cet élément-là qui paraissait très distant, qui paraissait relever uniquement des États-Unis. Peut-être que quelque chose a changé en France. Est-ce qu'on est exactement dans le puritanisme? Est-ce qu'on est dans la puissance des images, ici des images à caractère sexuel, la puissance des réseaux sociaux? Peut-être qu'aussi la séquence MeToo rend ce type d'image absolument insupportable. Donc pas simplement l'infidélité, mais une mise en scène obscène de soi qui n'aurait jamais dû sortir et qui sort et qui peut être très très mal perçue. Je suis pas convaincu qu'il y ait un retour du puritanisme, sauf peut-être dans l'esprit des gens qui ont diffusé ça. Et donc peut-être que la réaction de Griveaux aurait pu être autre que celle qu'il a eue.
C'est d'ailleurs ce qu'a dit par exemple Ovidi dans un article très intéressant de Libération. Elle dit qu'il aurait dû tenir effectivement parce que c'est question de revenge porn, de porno revanchard qui pourrit la vie des jeunes aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Eh bien, ça permettrait de dire qu'on peut tenir face à ce mur de haine qui est le revenge porn. Qu'est-ce que vous pensez, Gloria Origi, de tout ça?
Moi, je suis assez d'accord avec Manuel Taïeb. Enfin, je ne vois pas ça comme un nouveau puritanisme français. D'ailleurs, la France est un pays qui se distingue, enfin, par rapport au reste du monde, par sa grande liberté sur le discours érotique et sexuel, enfin, ce qui est quelque chose qui est très peu toléré dans le reste du monde. Moi, je pense que je voudrais revenir sur la citation de Debord, enfin, sur le fait qu'un acte comme de spectacle, comme une vidéo, casse les dialogues. Alors, c'est ça qui nous surprend, enfin. C'est un discours insignifiant qui est complètement hors place et qui casse toute possibilité de politique.
Donc, au point acte. D'ailleurs que Benjamin Griveaux considère qu'il
doit dire. Ceux qui l'ont mis en circulation, enfin, parlent aujourd'hui de dénonciation de l'hypocrisie du discours politique. Enfin, donc, c'est un acte qui casse les discours. Et donc, c'est plutôt ça qui nous choque et on n'a pas les moyens de réagir politiquement. Enfin,
oui, d'autant, James McCauley, qu'on peut ajouter à cette peur de l'américanisation, de l'autre côté, une peur de la russification, puisqu'on entend effectivement, de l'autre côté, que c'est du compromat, oui, comme on dit, c'est-à-dire c'est l'usage de documents secrets pour détruire la réputation d'un homme, et que ça, c'est ce qu'a fait depuis longtemps l'État soviétique d'abord, et l'État russe depuis quelques temps aussi.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais quand... pour moi, quand j'écoute ces débats et ces conversations sur l'américanisation de la France, il faut avoir un peu de perspective aussi, non? En gros, vous avez un vrai système social qui est l'envie du monde et duquel vous méritez d'être fier. Et aussi une conception complètement différente du rôle de l'État dans la vie des citoyens.
Dites-nous encore du bien, ça fait plaisir.
C'est vraiment pas du tout comme ça chez nous. Pour moi, l'affaire Griveaux montre en fait que l'américanisation n'est jamais vraiment s'installée en France. Car... Il n'y avait pas une grande mobilisation publique qui a demandé la
retraite. Tout le monde l'a d'ailleurs considéré comme une victime, ce qu'il est effectivement.
Même les opposants les plus opposés à la Macronie, à Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, l'a défendu.
Alexis Corbière.
Et ça veut dire quelque chose.
Moi, je ne suis pas d'accord pour que quelque chose qui, à ce stade, au vu des éléments que j'ai, reste dans le cadre de la légalité, soit utilisé dans la vie politique, parce que franchement, c'est crado. Tout ça participe, je répète, à cette forme d'américanisation. Chacun aura compris ce que je veux dire de la vie politique, et tout ça est absurde. La vie politique, c'est d'abord une confrontation d'idées, de projets pour le pays, sur des questions sociales, écologiques, démocratiques, et il faut qu'on s'interroge là-dessus. L'affaire Griveaux, de ce point de vue-là, est un cas d'école, me semble-t-il, mais est-ce que ça peut servir de signal d'alarme pour la suite? Chacun en jugera, mais... franchement, pour le pays qui actuellement est dans une situation difficile, faisons en sorte que le débat politique soit sur le fond et les idées.
C'était le député France Insoumise Alexis Corbière, vendredi dernier, tout de suite après le déclenchement de cette affaire sur France Info. Continuez, si vous voulez, James McCauley, justement, sur cet usage.
C'était juste ça, c'était que même les opposants, les plus opposés à la politique du gouvernement et de Benjamin Griveaux, l'a défendu. Et ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un changement social sur ce...
ça n'atteint pas les profondeurs de la société.
La vie privée, la vie sexuelle, tout ça. Et non, mais c'était que ça.
Béatrice Guillemont.
Je voulais revenir sur les propos d'Emmanuel Taïeb. À un moment donné, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, en fait, les Français sont plus intéressés par la corruption des élus, finalement, l'enrichissement personnel, que par des frasques personnelles. Et en fait, c'est une réalité, mais c'est aussi... Il y a un détournement d'intérêt pour ces éléments-là au détriment d'enrichissement personnel, au détriment d'effets de corruption, parce que, il faut quand même rappeler les chiffres. En France, il y a 570 000 élus. Les trois quarts sont des élus locaux, locaux qui travaillent bénévolement, pour lesquels la corruption n'est pas établie. D'ailleurs, un chiffre, c'est moins de 1% des élus sont mis en cause pénalement durant leur mandat. Ça, c'est le chiffre de l'Observatoire SMACL. Donc, en fait, finalement, il y a peu de corruption. Il y a de la corruption en France, qui concerne de la corruption donc de politique, et on a une difficulté à endiguer ça. Et donc, vu qu'on n'arrive pas à régler ce problème-là, on a du mal à condamner, on a du mal à faire appliquer les peines, etc. Bah, du coup, on s'interroge à d'autres éléments. On essaie de faire de la prévention pour pas que ces phénomènes se produisent, pour pas qu'il y ait de corruption. Et donc, la prévention, ça passe par la moralisation de la vie politique, c'est le terme qui est employé. Et là, il y a un débordement, en fait. On déborde ce cadre de moralisation de l'action publique pour s'intéresser à la vie privée.
Emmanuel Taïeb.
Oui, c'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a une focalisation sur des affaires de corruption qui sont évidemment à condamner, mais qui restent extrêmement minoritaires. Et donc, il y a une manière pour un certain nombre de gens d'entrer dans le jeu politique uniquement par sa version sombre ou uniquement par sa version corrompue. Et donc, cette perception va devenir dominante. Et je trouve qu'il y a en France, et c'est très bien examiné dans Baron Noir et dans d'autres séries notamment, il y a vraiment une tendance désormais non plus simplement à être dans la critique de l'activité politique, mais à être vraiment dans un ressentiment, dans une haine, dans une focalisation sur l'activité des hommes politiques, y compris d'ailleurs leur activité privée, en montrant qu'ils sont absolument ripoux, qu'ils sont absolument immoraux. Mais quand même, un des éléments de l'affaire Grimaud, c'est qu'on a beaucoup parlé des hommes politiques comme étant des puissants et comme étant manipulateurs. On peut voir à l'inverse qu'ils sont aussi manipulés, qui peuvent être victimes de trolling, d'usines à troll, d'outing, de tous ces éléments-là, et qu'on peut les faire tomber très très vite. Souvenons-nous de François de Rugy il y a quelques semaines, là ça arrive à Grimaud, les hommes politiques qu'on présente comme des puissants dans la critique qui leur est faite, sont-ils si puissants que ça, alors même qu'ils peuvent tomber en l'espace d'une journée.
Oui, parce que Gloria Oggi, on peut dire que les hommes politiques sont comme nous tous et nous toutes, effectivement, ils peuvent être mis à nu, symboliquement d'une certaine façon, par l'usage de ces réseaux, par l'usage de cette émotion qui, d'une certaine façon, nous empêche de réfléchir à la politique, nous empêche de réfléchir effectivement aux véritables conséquences que pourrait avoir justement la mise à l'écart de tel ou tel, par exemple.
Mais moi, je trouve les propos de ce député de la France insoumise, bien qu'insoumis, il est très naïf, enfin, parce que je trouve que le politique, comme il se l'imagine, ça tout simplement n'existe plus. On parle aujourd'hui des neuropolitiques.
Neuropolitiques.
On parle aujourd'hui des politique viscérale, enfin, c'est un domaine d'étude en sciences cognitives, par exemple, qui s'appelle politique viscérale, qui, enfin, qu'est-ce que le politique? Le politique, c'est un espace où on échange des opinions. Enfin, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire le politique? Enfin, donc, cet espace n'existe plus. On change des passions.
Vous allez nous démoraliser pour la fin de cette émission.
Non, mais peut-être il faut trouver d'autres moyens. Enfin, je veux dire, il faut trouver peut-être, on ne peut pas se faire des illusions qu'on va retrouver le dialogue et l'argumentation rationnelle dans les politiques. Il y aura une autre politique.
Chose. Il faudra inventer une autre politique. Béatrice Guillemot, un dernier mot.
L'espace politique, à mon sens, demeure. Ce qui change, c'est effectivement cette sacralité du mandat, cette sacralité de la personne politique. Et le problème, c'est qu'on a besoin de ce sacré-là pour maintenir cette fiction de la représentation. Si on fait tomber cette fiction de la représentation, on fait tomber le régime représentatif. Or, c'est un pendant de notre République. Et donc on est en train de parler, en fait, on fait du prospectif en disant, bon, ben, si on abandonne le régime représentatif, qu'est-ce qui restera derrière? La France est bâtie sur ce régime-là.
Bah dites donc, on est parti effectivement de l'américanisation pour arriver à la mise en danger de notre propre système politique et de la représentation. Ça veut dire que cette question est fort importante. Merci à toutes les quatre et tous les quatre d'être venus. Emmanuel Taïeb, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon et vous êtes auteur d'un livre au PUF sur la série politique House of Cards. Béatrice Guillemot, vous êtes doctorante en droit et vous travaillez à l'Observatoire de l'éthique publique, entre autres, et vous travaillez sur la moralisation de la vie politique. Gloria Origi, vous êtes autrice de trois ouvrages, Réputation qui dit quoi de qui en 2015 au PUF, Qu'est-ce que la confiance chez Vrin, et puis plus récemment Les passions sociales. Et James McCauley, merci d'être venu, vous êtes le correspondant à Paris du Washington Post. On a évoqué cette question avec vous de l'américanisation, sûre ou moins sûre, de la vie politique en France. Merci. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Manon Prisset. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson, et à la réalisation, Alexandre Manzanares. Et puis, il faut annoncer effectivement que d'ici quelques jours, c'est le samedi 29 février, il y aura un forum de France Culture qui d'ailleurs est lié à notre question 2020, la société face aux conflits, tous les conflits sociaux, mais également d'autres types de conflits. C'est au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, comme tous les forums de France Culture, entre 10h et 17h30, 4 tables rondes. Nous y serons pour notre part avec le temps du débat, également d'autres émissions de France Culture, et vous pouvez vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr.